Sons d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. C'est une des évolutions de nos sociétés occidentales et européennes. De plus en plus d'enfants sont élevés par un seul parent, le plus souvent la mère, et de plus en plus de ces familles monoparentales rencontrent des difficultés pour joindre les deux bouts. Et les institutions dans l'Union européenne ont bien du mal à aider ces mamans solo. C'est le cas en Irlande, où pourtant un quart des familles ont à leur tête un seul parent. Certes, beaucoup d'aides financières existent pour subvenir aux besoins de ces foyers, mais les associations de soutien aux parents isolés critiquent un système qui freine, voire bloque tout bonnement la réinsertion professionnelle des femmes et qui se trouve du coup dépendante des aides sociales. C'est le reportage à Dublin de Julien Lagache.
Quand je vivais encore avec mon mari, je restais à la maison parce que mes enfants avaient 10 et 11 ans et que les plus jeunes avaient 1 et 2 ans.
Avec 4 enfants à charge âgés de 5 à 20 ans, Brida Murray n'a longtemps connu qu'une situation de mère au foyer après être tombée enceinte à 19 ans.
J'étais constamment auprès de mes enfants chez nous et mon mari travaillait. Alors quand on s'est séparés, ça a été comme une explosion. Il a fallu que j'aille voir les services sociaux. Je me suis demandé qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je demande des aides?
Dès lors, mission difficile pour cette Dublinoise. Comment envisager subvenir aux besoins de sa famille autrement que grâce à l'État-providence? L'Irlande en la matière donne accès à un soutien financier pour le logement, l'éducation, la santé, mais pas vraiment pour le retour à l'emploi.
Ils sont très généreux tant que vous ne travaillez pas. À l'époque où j'avais des aides, je bénéficiais d'une subvention logement, j'avais la carte médicale, donc les frais de santé étaient gratuits. Mais une fois que j'avais payé les factures et l'école, il me restait environ 70 euros par semaine. Pour faire vivre une famille de 5 personnes, c'est bien trop peu. Alors je me suis dit que je devais trouver un bon job. Le problème, c'est qu'après, les aides ne sont pas dégressives et ne suivent plus. Donc quand on dépasse un certain niveau de revenu annuel, on nous retire tout.
Malgré tout, Brida Murray a fait le choix de reprendre une activité professionnelle, par fierté pour que ses enfants aient un modèle, explique-t-elle. Mais la jeune femme a dû passer par la case petit boulot, caissière, vendeuse, femme de ménage ou même réceptionniste. Une quinzaine d'emplois au total en 13 ans, selon elle. Une situation loin d'être exceptionnelle.
De nombreux parents isolés rencontrent des problèmes pratiques. Ils cherchent notamment des postes qui correspondent à l'emploi du temps ou aux rendez-vous médicaux de leurs enfants. Ça veut dire des emplois flexibles, donc des emplois à bas salaire et des emplois précaires.
Trisha Kilty est spécialiste de politique sociale auprès de l'association Saint-Vincent de Paul. Dans un rapport récent, elle pointe l'appauvrissement inquiétant des familles monoparentales en Irlande.
Le nombre de parents isolés qui vivent sous le seuil de pauvreté est passé d'un peu moins de 9% en 2012 à plus de 20% en 2017. À partir de là, il n'est pas surprenant de constater que 84% d'entre eux ne peuvent faire face à des dépenses imprévues, ce qui est le taux le plus élevé parmi les 28 membres de l'Union européenne.
La faute à un coût de la vie important en Irlande, avec entre autres l'explosion du prix des loyers combiné au manque de places de logements sociaux, en particulier à Dublin. Les aides sociales permettent à peu près de couvrir les dépenses courantes, mais c'est une autre histoire lorsque l'on est salarié. Désormais cadre d'une entreprise dans la finance, Brida Murray peine encore à boucler ses mois avec un loyer à 1400 euros par mois qui doit encore augmenter.
Je vais sans doute devoir déménager à Drogheda, donc je vais faire la navette plus d'une heure chaque matin et chaque soir pour avoir un loyer de 400 euros moins cher. Ça va me coûter 150 euros de plus en essence, mais j'économiserai 250 euros. Mon travail devra me permettre d'être à l'abri. Mais quand je suis allée demander des aides au logement, on m'a regardé en me disant « Vous gagnez plus d'argent que moi ». Mais ça n'a rien à voir. Sur le papier, on dirait que j'ai plein d'argent. Seulement avec les dépenses, parfois je ne peux pas faire les courses la dernière semaine du mois. Et c'est un vrai problème si les enfants tombent malades, parce que dans ce cas, je dois demander « Tu es vraiment malade ?» ou bien « Malade comment ?» C'est triste d'être dans cette situation, même quand on a un bon travail.
Une précarité que l'offre d'aide et de services publics ne permet pas de contrebalancer pour les parents isolés, dont près de 9 sur 10 sont des femmes en Irlande. Aux grandes dames de l'association One Family, qui leur propose du conseil, une crèche ou encore un soutien pour le retour à l'emploi dont a bénéficié Brida Murray. Pour Karen Kiernan, directrice de One Family, le manque d'intérêt des pouvoirs publics pour les mères seules est un frein à une amélioration de leur situation.
Le gouvernement a commandé 8 rapports différents qui disent tous la même chose. Les parents isolés ont besoin de soutien pour l'accès à l'éducation, au logement ou pour rester sur le marché du travail. Mais aucune recommandation n'a été appliquée jusqu'ici. Je pense que certains politiques n'ont pas de marge de manœuvre budgétaire. Alors au lieu de prendre des décisions fondées sur un besoin, ils prennent des décisions purement politiques. Le ministère de la Protection sociale a annoncé en fanfare l'avènement d'un congé parental de 7 semaines payées pour chacun des deux parents. Ce n'est pas transférable. Eh bien, rien n'a été dit sur la durée dont bénéficieront les parents isolés, comme s'ils constituaient une anomalie.
Il faut dire que le couple traditionnel est longtemps resté au cœur des politiques de la famille en Irlande, où le divorce n'est légal que depuis 1995. Pour l'association One Family, le pays doit encore évoluer pour changer cette culture afin de rattraper les autres pays européens et mieux adapter son encadrement des familles monoparentales.
En France, plus de 2 millions de foyers monoparentaux ont été recensés et à 85%, c'est une femme qui est à leur tête. Fin avril, le président Macron a promis de faire évoluer la politique familiale pour ces familles monoparentales. En attendant, les mères seules font partie des groupes les plus précaires. Un tiers d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Un phénomène observé un peu partout en Europe, mais avec des différences selon les régions. Bonjour Daniel Vigneron.
Bonjour Catherine.
Alors Emmanuel Macron a critiqué récemment la politique familiale menée depuis plusieurs années à l'égard des mères célibataires. On n'en ferait pas assez selon ses mots.
Il faut nuancer ses propos. En Europe, la France est considérée comme l'un des pays où la politique familiale est la plus développée. Allocation familiale, prestation d'accueil du jeune enfant, allocation de rentrée scolaire, aide à la garde d'enfants, les dispositifs sont nombreux pour les parents à bas revenus. À défaut d'un ciblage spécifique, la situation des familles monoparentales est prise en compte dans la fixation des plafonds de revenus conditionnant les aides. Toutefois, un dispositif les concerne en propre, il s'agit de l'allocation de soutien familial, ASF, de 115 euros mensuels par enfant, dont le parent ne perçoit pas de pension alimentaire. L'ASF peut être versée de façon provisoire si la pension alimentaire n'est pas versée, tandis qu'une agence de recouvrement des pensions tente d'éviter aux mères les procédures judiciaires. Mais la procédure est longue et aléatoire. D'ailleurs, le président entend améliorer ce recouvrement en permettant aux caisses d'allocations familiales de prélever directement les pensions impayées sur le compte bancaire du parent défaillant.
Les autres pays sont-ils aussi concernés comme la France par ces nouvelles situations familiales ?
On constate que la France, avec près de 18% de parents seuls, se situe dans la fourchette haute européenne, puisque la moyenne de l'Union est d'un peu moins de 14%. Mais en la matière, les disparités sont grandes. Le Danemark est le pays qui compte la proportion la plus grande de parents isolés, près de 24%. Suivent ensuite, autour de 20%, le Royaume-Uni, la Lituanie et la Suède, puis à 17-18%, outre la France, l'Allemagne et la Belgique. En revanche, les pays du sud de l'Europe n'abritent que 10 à 12% de familles monoparentales. La proportion tombant même à 5% en Grèce, tout comme d'ailleurs en Pologne.
Et comment s'expliquent ces disparités, Daniel ?
La religion paraît être un facteur explicatif, puisque dans les pays du Sud et en Pologne, où les parents isolés sont plus rares, les gens déclarent à 70 voire 80% accorder une place importante à la religion. L'Espagne fait cependant exception, avec une prégnance religieuse comparable à celle de la France, 37%, mais elle reste un pays où la tradition du mariage est forte, puisque 71% des couples avec enfants y sont mariés ou paxés. A l'inverse, la prégnance de la religion est faible dans les pays du Nord.
Est-ce qu'on peut dire que les divorces sont un facteur de monoparentalité ?
Dans de nombreux pays, dont la France, les divorcés constituent environ 30% des parents seuls. Cette proportion atteint même 40% en Italie ou en Grèce, en dépit d'un faible taux de divorce. Un signe que dans les pays où la religion est prégnante, les gens se marient davantage et conçoivent rarement des enfants hors mariage.
Et les parents isolés reçoivent-ils beaucoup d'assistance ?
Souvent touchés par la précarité, les parents isolés sont éligibles à toute une panoplie d'aides sociales destinées aux plus défavorisés, y compris au Royaume-Uni, où les maternités précoces sont nombreuses et où la prise en charge des frais de garde ou des repas scolaires, voire des bourses d'études pour mères célibataires, sont fréquentes. En Allemagne, les allocations familiales sont versées aux parents isolés dès le premier enfant, des prestations chômage supplémentaires et des allègements fiscaux sont prévus, ainsi que des avances en cas de versement irrégulier de la pension. En Italie, la nouvelle politique nataliste offre des subventions pour les crèches et des cartes de crédit prépayées, donnant accès à des rabais dans les magasins d'alimentation ou les pharmacies. En Espagne, une prime annuelle défiscalisée est versée aux mères seules. Au Danemark, une allocation est versée si le père est décédé ou non identifié. Enfin, en Estonie, les allocations familiales sont carrément doublées pour les parents seuls.
Au total, comment se situe la France en termes d'aide ?
La France fait partie, avec la Scandinavie, des pays généreux, car les montants d'allocations et le nombre de bénéficiaires y sont plutôt élevés.
Daniel Vigneron de MyEurope.info. À la semaine prochaine, Daniel.
À bientôt, Catherine.
En Autriche, ce sont 44% des mères célibataires qui sont aujourd'hui menacées de pauvreté. Un constat qui reflète leur situation dans toute l'Europe. C'est en leur direction que le gouvernement a voté fin avril une réforme de l'aide sociale, mais à certaines conditions. Les associations protestent contre des aides en trompe-l'œil qui excluent certaines catégories comme les familles immigrées. Elles se battent au quotidien pour soutenir les familles en organisant notamment des colocations de mamans seules. Reportage Céline Béal à Vienne.
La petite association viennoise Youno est une des organisations membres de la grande plateforme des parents isolés. Ici, on tente de trouver des solutions pratiques pour venir en aide aux parents qui en ont besoin. Sa présidente, Sarah Zeller, explique qu'ici, ce sont des parents eux-mêmes célibataires qui proposent des consultations pour un soutien psychologique ou en matière sociale.
Lors de ces consultations, on parle surtout d'argent. Il y a beaucoup de situations très précaires et les femmes demandent à quelles prestations elles ont droit, quelles sont les possibilités. Elles viennent nous voir aussi parce qu'elles ont des loyers impayés ou qu'elles ne peuvent pas régler leurs factures d'électricité. On cherche où et comment débloquer une aide financière. La question du logement a également explosé ces dernières années. Elle concerne maintenant plus de la moitié de nos consultations.
Sarah Zeller a fondé son association avec deux autres parents, justement sur cette question du logement. C'était en 2015. Jusqu'ici, elle vivait seule avec son jeune fils.
Ça a été une expérience déterminante. J'ai vécu plusieurs années seule avec mon enfant en bas âge. Je connais vraiment très bien la précarité et la difficulté de se loger quand on est un parent isolé. Je sais du coup à quel point nos projets de logement sont importants.
Youno gère un système d'habitation en commun pour familles monoparentales. Il s'agit d'immeubles ou de maisons avec des parties communes propices au partage et à l'entraide. L'association propose également une bourse de colocation. Des parents peuvent entrer en contact pour partager cette fois carrément un appartement. Un 3 pièces dans le 15e arrondissement de Vienne. Luciana Zingthaler y vit avec sa fille de près de 2 ans, Carla. Et depuis juillet dernier, avec une autre jeune maman, Eva, et sa fille, Nelly. Luciana habitait déjà en colocation auparavant, mais elle a préféré cette fois chercher un autre parent comme colocataire. Et elle a rapidement trouvé Eva et Nelly via Youno.
Nous pouvons nous aider mutuellement. Par exemple, quand nous devons rester plus longtemps au travail. Quelquefois, elle me dépanne et va chercher ma fille à la crèche. Des fois, c'est moi. L'une comme l'autre, pouvons faire du babysitting, on fait des économies. C'est facile et les enfants se sentent à l'aise. Si je ne suis pas là et que ma fille se réveille la nuit, elle peut sans problème voir Eva parce qu'elle vit avec elle et qu'elle est en confiance.
Les deux mères sont étudiantes. Elles travaillent en parallèle de leurs études, mais ont des petits revenus. La question financière est primordiale dans leur choix d'une vie en colocation. Elles sont heureuses de partager nourriture, vêtements d'enfants et jouets. Mais Luciana apprécie aussi sa vie sociale retrouvée. Comme l'association Youno le pointe, les parents isolés souffrent souvent d'isolement, justement. Ils manquent de contact avec d'autres adultes. Luciana Zingthaler, elle, semble pleinement épanouie dans sa colocation. Eva et elle parlent même de déménager un jour ensemble dans un plus grand appartement.
Quand je me compare avec d'autres mères et d'autres parents seuls, je dois dire que je suis très heureuse de ma situation actuelle. J'ai tellement de liberté, je peux sortir, je peux faire la fête, je peux aller boire un verre le soir avec des amis ou avoir un rendez-vous amoureux. Tout ça, c'est à nouveau possible grâce à cette colocation. Maintenant, nous pouvons tout simplement mener une vie normale, être plus qu'une mère seulement. Moi, je peux faire du théâtre, je peux aller aux répétitions le soir et aux représentations. Ce n'est plus un problème.
Au théâtre, la jeune femme joue dans une pièce qui traite des différents modèles que peut prendre une famille. Luciana Zingthaler espère contribuer à changer le regard de la société. Alors que le gouvernement vient d'adopter une réforme de l'aide sociale, Une réforme qui concerne en particulier les parents isolés qui pourront prétendre à une nouvelle aide. Doris Petitkofer est très sollicitée ces jours-ci. Tous les médias veulent son avis sur ce nouveau système. Elle est à la tête de l'organisation de la plateforme autrichienne des parents isolés. Cette plateforme politique regroupe une vingtaine d'associations dans le pays, dont Youno. Elle estime représenter environ 150 000 personnes, à 90 % des femmes. Pour elle, la réforme est en trompe-l'œil et des familles pourraient y perdre plutôt qu'y gagner. En tête desquelles, les familles nombreuses et les familles étrangères.
La réforme crée de nouvelles difficultés, de nouvelles marginalisations. Ce serait beaucoup plus pertinent d'établir une aide chiffrée par enfant pour tous les bénéficiaires de l'aide sociale pour que tous s'en sortent.
Cela fait 30 ans que la plateforme défend des législations plus inclusives qui permettent à toutes les sortes de familles un traitement égal. Des progrès ont été enregistrés. Pourtant, les chiffres sont toujours bien en deçà des espérances pour un pays riche comme l'Autriche.
Nous venons de recevoir aujourd'hui les nouveaux chiffres de la pauvreté. La pauvreté infantile reste toujours un problème. 44% des familles monoparentales sont menacées de pauvreté ou de précarité.
Près de la moitié des 308 000 pères et mères célibataires et leurs enfants restent dans des situations très difficiles en Autriche.
Elles assument une place centrale dans la société, elles sont indépendantes, élèvent souvent seules leurs enfants, et pourtant, elles vouent aussi une grande admiration aux hommes forts. C'est tout le paradoxe des femmes russes que met en lumière l'anthropologue Maureen Deminoff dans son livre « La tête et le cou ». Bonjour Étienne Bouche, vous êtes notre correspondant à Moscou.
Bonjour Catherine.
Les grands bouleversements du XXe siècle ont engendré dans ce pays un déséquilibre démographique. On devine que cela explique pourquoi les mères célibataires sont très nombreuses dans la société russe.
En effet, au cours de son histoire récente, la Russie a connu des guerres. Elle a traversé des années 90 chaotiques à la fois au plan économique, social et sanitaire. L'alcoolisme était alors un fléau. Dans ce contexte de dérèglement généralisé, les femmes russes ont assisté à une certaine démission des hommes. Les femmes interrogées par Maureen Demidoff, quelle que soit leur génération, expliquent toutes qu'au cours de l'histoire, la femme russe, elle, n'a jamais failli. Elle n'a pas eu d'autre choix que celui de prendre son destin en main et de ne compter que sur elle-même. Bien sûr, le déficit d'hommes explique en partie pourquoi les mères célibataires sont nombreuses en Russie, mais ce statut est souvent un choix répondant à une volonté d'indépendance. Car les femmes russes sont très possessives avec leurs enfants et s'efforcent d'ignorer la paternité.
Autre paradoxe, la société russe promeut un modèle patriarcal qui s'appuie sur des stéréotypes sexuels très ancrés. Et pourtant, à y regarder de plus près, la femme joue un rôle fondamental.
En l'absence des hommes, les femmes sont devenues par la force des choses toutes puissantes dans leur foyer. Ce sont elles qui décident, qui ont le contrôle des finances et de l'éducation des enfants. D'ailleurs, en cas de divorce, ce sont elles qui chassent les hommes du domicile conjugal et très rarement l'inverse. En Russie, la majorité des femmes travaillent et au quotidien, elles ont généralement recours à leur propre mère pour s'occuper des enfants. Dans la Russie actuelle, la fameuse babouchka reste très présente et son soutien est précieux. Il permet notamment de compenser la faiblesse des allocations de l'État, surtout si le père ne verse pas de pension alimentaire. La grand-mère joue elle-même un rôle dans l'éducation des enfants et cette configuration a tendance à exclure le père de la sphère familiale.
Alors si l'on en croit les témoignages recueillis dans le livre, les femmes russes aspirent à jouer un rôle très traditionnel au sein de la famille.
C'est toute l'ambiguïté des femmes russes qui sont des femmes émancipées, modernes, mais qui n'ambitionnent que d'être sous la protection d'un mari fort, c'est-à-dire plus fort qu'elles. Elles attendent d'un homme confort et sécurité, et cette addition de paradoxes explique pourquoi elles sont si souvent incomprises dans le monde occidental. Mais il n'est pas certain qu'elles se comprennent elles-mêmes. Elles déplorent l'absence des hommes dans leurs discours, mais dans les faits, ne semblent pas prêtes à déposer les armes et renoncer à leurs responsabilités.
La tête et le cou, portrait de femme russe de Maureen Demidoff, s'est publié aux éditions des Sirtes. À très bientôt, Étienne.
À bientôt, Catherine.
Françoise Grelot était à la réalisation et à la mise en onde aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur RFI.fr et sur notre page Facebook.